Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Par le bout de la lorgnette, une 45e émission spéciale méchant dans les livres jeunesse. Salut Héloïse.
Salut.
Salut Valérie.
Et salut.
Salut Pauline.
Salut tout le monde.
Ça va Valérie, t'es en forme ?
Ben super, à part que je pensais qu'aujourd'hui c'était littérature érotique, mais à part ça, tout va très très bien.
Mais il y a des méchants aussi dans la littérature érotique, donc tu peux faire un lien.
Oui, 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 hein. Voilà.
Bon, ça se prépare bien, ta grande soirée, on le rappelle, hein, bien sûr, c'est pas ce samedi, c'est celui d'après au Mont-Braque, spécial conte amateur. C'est bon, t'es au point ?
Eh bien, oui.
Oui.
Enfin, au point, non, mais ça y est.
Tu le sauras.
Je sais quel conte je vais raconter.
Super.
Et est-ce qu'il y a un méchant dedans ?
Oui, il y a un chat méchant dans un des contes. Le chat flamme.
Est-ce qu'on aura le droit à un petit passage dans cette émission ?
C'est compliqué de faire un passage de conte, mais je vous raconterai une petite histoire très courte.
Oh, très bien ça.
Voilà.
On n'a pas fait le point, tiens, avant cette émission, c'est savoir qui avait lu combien de livres. Je vois que tu en as pas mal.
J'en ai 3 à présenter.
Ok, Valérie, tu en as combien ?
14.
14, ok. Pauline ?
2.
2. Donc, Valérie, tu vas commencer alors ?
C'est bon.
Ah, il y a ton micro qui grésille, tiens, c'est étrange. Voilà, c'est bon.
J'ai menti, j'avais des notes.
D'accord, tu en as combien à présenter ?
Non, j'en ai 3 et un avis global.
Allez, ben, on te laisse la parole.
Voilà. Bon, alors, le premier livre dont je vais parler, c'est une BD jeunesse, mais qui fait flipper les enfants. J'aurais pas dû la tester sur les enfants. Depuis, ils ne dorment plus et se tiennent en boule au fond de leur lit toutes les nuits. Non, je plaisante, je ne l'ai pas testé sur eux. C'est un livre de Nadia. Alors, Nadia, c'est une super...
Moi, j'avais une copine qui s'appelait Nadia.
C'est peut-être pas la même. Hein. Toi, c'était la copine à Titeuf, non ?
Non, non, c'était une copine comme ça.
Nadia, elle est
égyptienne ?
Bon, un peu
plus. Non, c'était plutôt du côté de l'Algérie.
D'accord. Elle est née en 1955 ?
Non,
elle
pas du tout.
Pas, elle dessine pas des BD,
non
des
plus.
Pour jeunesse. Donc, non. C'est pas la même.
Ok. Voilà. Tant pis, j'aurais tenté. On sait jamais.
On l'embrasse.
On l'embrasse.
Voilà. Laquelle, la mienne ou celle de Ludo ?
Les deux.
Super. Bah, c'est la mienne, bah, elle mériterait en fait qu'on l'embrasse parce qu'elle fait quand même énormément de livres. Alors, pas que de la jeunesse, énormément de livres de jeunesse, comme Le Chien Bleu, comme Momo, un petit personnage super sympa. Mais aussi, elle a fait toute une petite série de livres sur les petites princesses. Horrible petite princesse, la petite princesse nulle, la jolie petite princesse. Et c'est des personnages qui ont énormément de couleurs. Elle a fait aussi pour adultes une trilogie en 3 tomes qui s'appelle Les filles de Montparnasse.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Et c'est des styles hyper différents, mais c'est chouette. Et là, donc celui que j'ai en main, c'est La forêt de l'oubli. Donc c'est le premier tome. Alors je crois qu'il y en a que 2.
Il y en a 3.
Il y en a 3. Ben voilà, tu vois. J'avais mal lu, mais je n'ai lu que le 1. Et je vous avoue que je reste vraiment sur ma faim. Donc l'histoire, ça se passe. Donc c'est une petite fille qui rentre de l'école. Elle a son cartable sur le dos. Elle rentre chez. Dans sa maison, qu'on ne peut plus appeler vraiment chez elle. Et sur le sol, elle voit une espèce de doudou. Enfin, c'est ce qu'elle pense. Elle le ramasse, le nettoie et aussitôt l'adopte comme tous les enfants. Dès qu'ils voient quelque chose par terre, ça devient leur meilleur ami.
Il s'appelle Chucky, ce doudou.
Non, mais il a une tête assez sympa et il apporte un peu de gaieté dans ce livre parce que l'image est super sombre.
On dirait un petit éléphant
et,
ou un petit fourmilier.
Il ressemble à Momo, l'auteur. Enfin, un des livres de... C'est vraiment un petit personnage à part, c'est un petit alien avec un long nez, il est cool. Et en fait, elle ne se rend pas compte au départ qu'il est doté de vie, ce petit doudou. Donc elle commence à le nettoyer, tout ça. Et ensuite, elle commence à se poser une question, et c'est là où on rentre un peu dans le côté flippant, où on va rencontrer notre premier méchant, c'est va-t-elle être autorisée à garder ce doudou ? Et on découvre alors qu'elle vit non pas dans sa maison, mais dans effectivement ce qui était sa maison, mais occupée par un couple d'hommes et femmes qui, on ne sait pas si c'est l'oncle, la tante, si c'est une nourrice avec son mari, mais qui s'occupe de Linda et son frère Marc. On sent qu'ils sont hyper flippés, que l'ambiance, elle est pas rose à la maison. Et très vite, on découvre qu'en fait, Linda et Marc, ils ont perdu leurs parents. Et que c'est ces gens-là qui... Est-ce qu'ils les élèvent? Est-ce qu'ils s'en occupent? Est-ce qu'ils vont les vendre? On ne sait pas. On ne le saura pas à la fin du livre non plus. Et en fait, Linda, le soir où elle découvre que son petit doudou est doté de vie, elle va le suivre dans la cave où ils vont découvrir un espèce de passage secret. Donc elle le suit, pensant arriver dans le pré qui est derrière sa maison. Mais en fait, il se retrouve finalement dans un nouveau monde peuplé de créatures étranges, un peu flippantes. Il se protège dans un tronc d'arbre et ce tronc, c'est un tronc berceur qui commence à l'endormir. Mais vite, le petit doudou va la sortir parce que sinon, il va se faire bouffer par le tronc. C'est flippant parce qu'on ne sent pas qu'on va arriver dans ce milieu-là. Et en fait, elle va être récupérée par une espèce de tribu qui veut faire d'elle une princesse. Mais le tout, c'est pas mièvre parce que c'est pas princesse rose Barbie, poète licorne. Ils sont un peu flippants quand même, ces gens qui veulent faire d'elle une princesse. Mais comme elle a ses yeux d'enfant, c'est super mignon parce qu'elle a envie d'être une princesse et ça lui fait bien plaisir. Et en fait, son petit doudou de compagnie, Mingo, elle va découvrir qu'il s'appelle comme ça, petit à petit reprend un peu d'énergie, reprend un peu des forces dans son pays à lui. Et l'histoire va s'arrêter là, en fait. Il y a donc l'intrigue qui est montée, le dessin qui est hyper sombre, qui crée vraiment l'ambiance angoissante.
On dirait de l'huile, de la peinture sur huile, non ?
Ouais, ou un fusain, tu sais, sombre.
Ouais.
Enfin, c'est
sombre.
Je
ne
sais pas, mais c'est... Et c'est flippant, même le visage des personnages, il est flippant. Enfin, ça fait vraiment méchant. Et vraiment, on a envie de savoir la suite, parce que ça s'arrête net. Ça te laisse sur ta faim, mais le scénario est posé. C'est,
Alors, plutôt adolescent, hein, pas avant.
Du coup, moi, pareil, quand j'ai vu le petit personnage dessus, je me suis dit, il faudrait de l'oubli, ça va être un peu tristouné, mais pour enfants, moi, j'irai chez les ados. Je sais pas, toi, Héloïse, dans quel côté de ton rayon bibliothèque?
Oui, je dirais à partir de 10 ans.
Ouais.
10-11 ans.
Ouais, voilà. Mm. 10-11 ans qui dorment bien de la nuit.
D'accord.
Et par rapport au classique, donc du coup, c'est vrai que c'est un sujet classique, les méchants dans les livres jeunesse. Est-ce qu'on retrouve des références à certains contes ou...
Complètement. Là, tu as, déjà l'histoire de la fratrie. On pense un peu à Hansel et Gretel. Tu as les parents qui sont... Enfin, on découvre que c'est pas les parents très vite, donc tu as toujours ce rapport, une nourrice, une belle-mère.
Un peu méchante, oui, comme dans Cendrillon.
Voilà, le fait qu'il se passe un truc pendant le sommeil, ça appelle pas mal à cet imaginaire-là. Et puis, tu as le côté merveilleux avec ce petit doudou qu'elle trouve, qui en fait est doté de vie et va l'aider en fait dans sa... On suppose qu'il va l'aider dans sa quête. Déjà, il l'amène dans un autre pays, il lui fait changer d'environnement. Donc, on espère qu'il va y avoir un lien avec ses parents qu'elle recherche. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que son frère, Marc, est laissé au plus que second plan, puisque...
Il va peut-être intervenir après.
J'espère qu'il va lui aussi trouver le passage. Vu que le passage est dans la cave et vu qu'il n'a pas l'air très aimé des gens qui l'hébergent.
Tu as lu les autres tomes, Héloïse, ou pas du tout ?
Non.
Ah, donc on ne saura pas.
Tant mieux, comme ça, ça laisse sur la fin, ça donne envie de découvrir.
Et tu as envie de découvrir, justement ?
Ah, très.
Ouais.
Très, très, très. Et je me suis interdite d'aller voir sur Internet en préparant l'émission pour savoir. Je me suis dit, je lirai le livre.
Ah, c'est bien, ça. C'est bien. Ouais. Chez Gallimard.
C'est chez Gallimard et c'est
la collection Bayou. Voilà. Une petite collection de BD très sympa.
Bayou, j'avais un pote qui s'appelait Bayou. C'est drôle,
c'est vrai,
ça.
On l'a salué aussi. Vous connaissez Nadia ?
Non, il l'a pas connu.
D'accord. On le salue ?
On le salue, Bayou, s'il nous écoute. Je ne sais pas où il est. Hein. Héloïse, qu'est-ce que tu nous présentes, Héloïse, qui est en train de manger une bonne crêpe bretonne qui n'est pas préparée du tout comme on pourrait penser.
Pas du tout bretonne.
C'est pas breton, les crêpes ?
Pas les crêpes comme ça.
Ah. Bon, alors, la vie de la bretonne, est-ce qu'on peut manger une crêpe farine blanche ?
C'était très bon. Oui, je me suis régalée.
Héloïse.
Alors, je vais vous présenter un premier petit livre pour les tout-petits, cette fois. On sera vers 3-4 ans. C'est un livre qui s'appelle « Il y a des monstres dans ma chambre ». L'auteur et l'illustratrice, c'est Fanny Pageot. Et c'est publié chez la petite maison d'édition du Puy-en-Velay, l'atelier du poisson soluble. Voilà, qui est une très bonne maison d'édition. Donc, c'est un petit livre très original, assez étonnant. Il est inquiétant aussi. En fait, c'est un petit garçon qui nous parle, il nous interpelle directement. Et il nous raconte comme quoi, bah voilà, il y a des affreux monstres dans sa chambre et que personne ne veut le croire, mais que lui, il le sait, il sent qu'ils sont là, les monstres, et il nous raconte en fait un peu son angoisse à travers les pages du livre. Alors si on le regarde comme ça, en fait, il y a juste le texte du petit garçon, en orange, sur des fonds blancs. Et plus on regarde le livre, et petit à petit, on voit, à la lumière surtout, avec une lampe de poche ou avec la lampe de chevet, qu'en fait, entre les pages, il y a des ombres, d'affreux monstres, effectivement.
Intéressant.
Ils sont toujours en ombre chinoise, ils sont toujours cachés, à aucun moment on le verra directement, le monstre, mais ils sont bien là. Et ça, c'est grâce à une très belle reliure japonaise. Donc... Avec ce livre, on peut vraiment s'amuser à se faire peur, on peut jouer avec les ombres, on peut les agrandir, on peut les déformer. C'est assez ludique, moi j'aime bien. Et donc évidemment, à la fin, le petit garçon nous explique que les monstres, ils ont aussi peur de lui parce que sans son imagination, ben, il n'existerait pas. Voilà, et que lui, il suffit en fait qu'il s'endorme et il disparaisse. Donc je trouve que c'est une conclusion assez jolie également. C'est très subtil et assez intelligent pour aborder cette question des monstres, de la peur. On peut montrer que la peur, ça peut être amusant aussi de se faire peur. Ça fait partie de la vie aussi. Mais qu'on peut aussi couper l'imagination, qu'on peut aussi couper court et ne plus avoir peur en faisant un petit effort. Donc c'est très sympa.
Il y a toujours que du texte et c'est monstre caché. Il n'y a jamais, à la fin, on ne retrouve pas. D'accord,
non.
Tout le long, c'est ça.
C'est très subtil, c'est très...
Une bonne idée. Et pourquoi Orange Fluo, là, ils ont craqué ou quoi?
Alors ça, par contre, oui, c'est du Pantone, encre fluo, oui, effectivement. Je ne sais pas pourquoi.
Parce que la lumière, ça fait ressortir quand on met une lampe de poche ou
pas? Ah oui,
pas
tout à fait, oui, tu les vois très très bien. Ouais.
Non, mais la typographie, je te parle.
Ah oui, c'est un petit peu fluorescent aussi dans la nuit. Ouais.
Voilà, c'est pour ça.
Oui, effectivement.
Okay.
Donc voilà, très sympa pour les petits pour aborder cette question de la peur et des monstres.
D'accord, cette maison d'édition, je ne savais pas qu'il y en avait une au Puy-en-Velay, elle est spécialisée jeunesse ou...
Oui, ils font beaucoup de jeunesse, un petit peu d'adultes, mais beaucoup de jeunesse. Et c'est d'ailleurs une maison d'édition qui est en difficulté en ce moment.
Ah.
Il y a un financement participatif, sur Internet, si vous voulez les aider, parce qu'ils font des choses vraiment très belles pour les enfants.
On sait si c'est sur Kiss Kiss Bang Bang ou ailleurs.
Je crois que c'est Kiss Kiss Bang Bang, oui.
D'accord.
L'atelier du poisson soluble.
D'accord, super. Merci Héloïse. Popo.
Oui.
Popo.
Et on est encore sur le monstre classique, c'est bien, on est dans la... Je suis un peu ce que tu as commencé, les monstres qui sont cachés dans la maison, dehors, dans le jardin. En fait, moi, mon livre, c'est À la nuit tombée, conseil aux monstres et aux enfants pour bien vivre ensemble. Donc c'est hyper original, déjà conseil aux monstres, je trouvais que c'était vachement sympa. Et là on ouvre le bouquin et ça commence, donc c'est Enrique Quevedo qui a écrit ce livre, écrit et illustré il me semble. Et il l'a écrit en hommage à Maurice Sendak qui a fait Sendak, je sais pas comment on dit, Max et les Maxi-Monstres. Sur un univers de monstres, un petit garçon qui se retrouve dans un univers de monstres, c'est assez connu, et un autre hommage à Édouard Goret qui fait, alors là c'est moins pour les enfants, c'est des petits livres, on dirait que ça s'adresse aux enfants, et puis tu l'ouvres et il y a par exemple les petits enfants fichus, c'est des petits personnages tout mignons, des enfants bien habillés, tout jolis, qui ont des occupations un peu particulières. Il écrit aussi des livres sur des morts d'enfants ou d'adultes. Pareil, c'est vraiment un dessin très enfantin et puis c'est des choses très cruelles ou très sombres. C'est très rigolo avec un dessin noir au crayon fin. Faut l'ouvrir pour le voir. Édouard Goret, c'est très sympa. C'est vraiment, et puis avec tout de suite toujours une petite phrase toute simple. Donc voilà, ce bouquin-là, il est en hommage à ces deux auteurs, Maurice Sendak, un peu pour le thème des monstres, de l'univers du cauchemar, des enfants, et Édouard Goret, je dirais plutôt pour le dessin. Après, c'est un ressenti, je ne sais pas s'il l'a fait lui comme ça, mais...
Louise acquiesce.
Oui.
Ouais, toi aussi, t'imagines. Donc pour commencer, je vais vous lire juste un petit peu la note de l'éditeur. Donc il nous dit, durant de longues années, l'érudit Enrique Quevedo a étudié la possibilité d'une cohabitation harmonieuse entre deux espèces historiquement inconciliables, les enfants et les monstres. Ce manuel propose des conseils pratiques pour résoudre pacifiquement les situations les plus courantes susceptibles de se produire lors de ces rencontres particulièrement difficiles. Donc voilà, c'est un vrai manuel avec des vrais conseils. Donc on a la première partie où les enfants se retrouvent face aux monstres. Et on leur dit, bon, bah, alors, t'es dans ta chambre, t'es dans ton lit, et là, un monstre arrive, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, évidemment, tu te caches sous la couverture, parce que tout le monde sait très bien que les monstres sont allergiques aux acariens. Voilà, prendre sale douche le dimanche, alors, parce que les monstres ne prennent pas, prennent leur douche, vont dans la salle de bain les autres jours. Enfin, voilà, des tas de petits conseils un peu rigolos, des solutions vraiment pratiques et sans conflit pour que tout le monde vive ensemble. Et puis bon, il y a la petite originalité, c'est qu'on a aussi les conseils pour les monstres. Parce que bah, les monstres souffrent aussi, c'est-à-dire que où qu'ils soient, dans les parcs, dans n'importe où, il y a des enfants partout, et c'est l'horreur, ils en souffrent, ils sont pas bien, ils se sentent, voilà, ils se sentent épiés. Et puis c'est surtout que, évidemment, il faudrait peut-être qu'ils aimeraient bien se faire des amis, des enfants, mais c'est impossible, les monstres ont peur. Et donc là, la solution miracle que j'ai trouvée géniale pour les monstres, pour se faire des amis enfants, de sortir évidemment à Halloween. Le jour d'Halloween.
Le dimanche, elle dit. Dans la salle de bain, non.
Donc voilà, en plus d'être un beau livre, c'est un livre assez rigolo, assez mignon dans le texte. C'est des petits conseils sympas, ça va soit faire rire vos enfants, soit ça va leur plaire, je pense. Et même pour les adultes, mais bon, après moi je suis très bon public de livres enfants, mais c'est un très très beau livre en plus. C'est le dessin et uniquement noir et blanc, les monstres, c'est des très fins, c'est des monstres un peu mécaniques, ça fait penser un peu aux machines de Lille, de Nantes, les machines un peu particulières, là, ça fait, c'est très très beau en plus. C'est vraiment un magnifique livre, donc je conseille sans problème. Allez-y.
Ok.
Et c'est chez qui du coup?
Ah pardon.
Non mais.
Le Seuil Jeunesse.
Le Seuil. Ok, merci Pauline. Donc là c'est élargi hein, pour les enfants.
Ah ouais, c'est très large. Je pense que vous pouvez le lire à des tout petits et après en lecture autonome pour des plus grands jusqu'au, je sais pas, CP, CE1 j'imagine. Le monstre, est-ce que ça touche encore?
Oh, mais j'ai peur un peu.
Ouais, 8 ans et même plus tard. Hein, je pense que.
Oui, ceux qui ont des enfants là autour de la table, est-ce qu'il y a vraiment des peurs? Comme ça, du monstre ou de sous le lit ou
ouais, c'est assez irrationnel parce que moi, enfin, je prends l'exemple de ma grande qui est très très terre à terre sur tout, enfin, c'est-à-dire qu'elle est, elle a enfin voilà, très terre à terre et elle va être capable de justement des fois de couper son imaginaire pour dire ben non, c'est comme si, c'est comme ça, enfin le Père Noël. Et à côté de ça, par contre, le loup qui arriverait à se transformer en feuille, à glisser sous la porte. Et à venir dans la chambre, alors qu'elle aime bien les loups en temps normal, mais arrive le soir, il y a ça. Et alors du coup, moi, je me mets sur son modèle, c'est-à-dire rationnel, en disant, écoute, le loup avec ses petits ergots et avec ses petites griffes, s'il se met debout sur le carrelage, ben, il s'éclate. Tu vois, Bambi qui est en train de traverser le lac gelé. Puis le loup, il est pareil, j'ai dit, puis il a besoin d'herbe, il a besoin de tout ça. Donc je dis, le loup, il serait malheureux dans ta chambre. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Puis ton frère est plus à portée de même pour être mangé. Donc, mais il y a des peurs comme ça irrationnelles et elles sont chouettes aussi. Et moi, je leur apprends à maîtriser leurs rêves en leur disant que même quand ils rêvent, quand ils sont en train de faire le gros cauchemar, j'en avais marre d'être réveillée. Et je leur ai dit, c'est vous le patron quand vous faites des rêves. Donc quand vous sentez que le rêve il vous échappe et que vous êtes en train de vous faire bouffer par le monstre qui est caché sous le lit, j'ai dit, vous arrivez soit à le gérer, le rêve, à changer le cours des choses, soit à vous réveiller et à vous rendormir
en
vous
disant,
en silence bien sûr. Sinon le monstre revient si vous réveillez papa et maman.
Ça c'est grâce à ta décennie de LSD dans les années 90.
Exactement, c'est les résidus. Voilà,
ouais, le monstre. Est-ce que vous pensez qu'un livre peut aider à ça?
Ben, carrément, parce que ça, c'est une explication qui arrive ailleurs que par la bouche des parents. Donc,
ça peut aider dans les deux sens. Ouais. Ou
pour
faire peur. Il y a des livres qui font peur. Et, oh, mince, j'ai pas pris le bon. Attends, je le finis quand même.
Tu peux assommer l'enfant aussi avec le livre, si la couverture est assez solide.
C'est cela, oui. Allez, merci Pauline. Je vous présente un livre pour les plus petits, par contre, 3 ans, 6 ans, on va rester dans ce cadre-là, qui s'appelle Toc Toc Toc.
Qui est là?
C'est un peu ça. C'est chez L'Élan Vert. Je ne connaissais pas cette maison d'édition. En tout cas, très beau livre,
oui, L'Élan Vert. Ils font que du jeunesse, oui, L'Élan Vert, et c'est très chouette ce qu'ils font.
Hein?
Ils font du maïs aussi.
Non, c'est le géant vert qui fait du maïs. Enfin, il n'en fait même pas. Hein. Si, il le cultive, géant vert.
Aucune idée.
Bref, Christelle Valla et Joël Dreidemi à ses maisons d'édition. Ce livre qui commence par un petit texte qui nous dit « C'est un endroit un peu spécial, un château étrange. J'habite ici avec mes parents, nos voisins sont un peu bizarres. Approche si tu veux savoir. Plus près encore, plus près, mais reste derrière moi, on ne sait jamais. Toc, toc, toc. » Voici comment l'histoire du livre commence, où on voit un petit garçon et une petite fille, on ne sait pas vraiment vu qu'il est encapuchonné. Il montre du doigt un étrange château qui est donc la maison de cette petite personne, plus d'autres locataires qu'on va découvrir tout au long du livre. Suivi cette page d'introduction, justement, on entre dans le château, on se retrouve derrière différentes portes. Chaque porte contient des éléments qui affichent des indices d'un univers à découvrir. Alors, pour exemple, la première chambre à visiter, la porte ressemble à une gueule de loup, on y entre donc dans la tanière du loup. Une fois qu'on tourne la page après le toc-toc-toc de cette porte, on est à la place du personnage que l'on ne voit plus, car on voit ce qu'il voit lui à travers ses yeux. En l'occurrence, un loup qui est en train de découper un oignon sur son plan de travail et qui nous dit « Entrez, salut les petits, n'ayez pas peur, je faisais juste cuire des petits oignons, venez, vous pourrez vous réchauffer ». Et en fait, on voit qu'autour de lui, eh bien, il y a des bocaux avec des étiquettes de moutons, d'enfants, des jambons qui s'achètent au-dessus de lui. Au deuxième plan, il y a une chambre cachée par un rideau où on peut quand même apercevoir attachés trois petits cochons et le chaperon rouge. Voilà, tout l'univers du loup. Et donc, la page d'après, nouvelle porte, nouveau méchant. Chaque page apporte une figure connue de la littérature enfantine. Donc, il y a le pirate, la sorcière, le dragon, le fantôme. Jusqu'à la dernière porte où l'on apprend qu'il y a notre petit guide qui nous amène voir sa famille. Donc je vous dis pas laquelle, il va falloir le découvrir. C'est plein d'humour, c'est très drôle. Les illustrations sont de Joël Dreidemi qui fourmille de détails, un peu de référence à cet univers des contes qui nous raconte mille histoires et qui fait de chaque page une véritable aventure. Donc on peut réellement s'attarder sur chaque page pour regarder tous les petits détails. Donc le loup, comme je vous l'ai dit, on aperçoit les petits cochons, on aperçoit le chaperon rouge, etc., etc. Il y a plein de détails à regarder tout le long. C'est en couleur, hein. Ce sont des beaux dessins assez drôles. Et moi, je l'ai montré à mon fils de 4 ans qui a complètement adoré. Et on le relit assez souvent.
Ça l'a fait rire,
du coup. Ouais. Ben, ils sont attirés par les méchants, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, régulièrement, on retourne dessus pour faire un toc-toc-toc et aller voir un peu cet univers. Voilà. C'est un peu comme le livre que j'avais présenté il y a 2-3 semaines sur les trois méchants qui étaient...
À l'intérieur des méchants, oui.
À l'intérieur des méchants. Voilà, c'est ce même principe assez ludique. Donc là, il y a quand même une histoire en plus parce qu'on découvre à la fin qu'il y a ce personnage qui nous amène. Et ce qui est très intéressant, c'est justement cette façon de présenter l'histoire où on voit ce petit qui nous montre sa maison, qui tape aux portes. Et une fois qu'on ouvre la porte, on ne voit plus ce petit. On est à la place de lui à voir cet univers qui se...
Oui, c'est
que
comme
l'on
si
découvre.
On était en groupe derrière lui et qu'il nous faisait la visite de son voisinage.
Voilà.
Puis sympathique, les méchants, quand même. Ils ont une bonne bouille.
Oui,
ils font pas très peur. C'est pas... ils nous invitent à rentrer chez eux. Donc d'un côté, s'ils font peur, Valérie, on n'y entre pas.
Et ce qui est chouette aussi, c'est de deviner par rapport au format de la porte et à ce qu'il y a sur la porte, quel méchant peut se trouver derrière aussi.
Voilà, c'est ça.
C'est rigolo.
À chaque porte, tu dis qui tu penses qui est derrière cette maison. Donc il y a une porte de pain d'épices. Bien entendu, donc la gueule du loup, etc., etc. Le dragon, il y a un dragon aussi, tiens. Donc ça, c'est un peu plus dur à deviner, mais je trouvais, moi. Voilà, un très beau livre que je conseille fortement, et surtout voilà, aux enfants de 4, 5, 6 ans, c'est intéressant. On fait une pause musicale ?
Tout à fait.
Allez, avec un...
C'est une chanson sur les méchants.
Voilà, alors on laisse cette chanson, vous allez la découvrir avec nous, c'est les très bonnes idées d'Héloïse. Thank you. Allez, c'était Bad.
Trop
méchant. Hop.
Bad d'un jeune prodige de la musique classique qui est japonais. Chinois ou coréen, non?
Ah, j'aurais dit japonais,
Yuan,
je ne sais pas.
Il s'appelle.
Ouais, mais ça va pas nous aider.
C'est breton, ça.
C'est pas breton. Ouais, Yuan, c'est breton, c'est vrai.
Yuan. Ouais, tout à fait.
Tu avais des amis, petites.
Ah oui, j'en avais une collection de Yuan, oui.
Mais là, c'est Yuan. C'est la version asiatique.
Mais t'as Yuan.
Allez, qui reprend?
Valérie.
Oh, Valérie, allez, soyons fous.
Allez, au hasard, Balthazar, je mets la main dans mon sac.
Tu veux pas nous raconter une histoire d'abord? En fin d'émission?
En fin d'émission, ouais.
Une blague?
Blague. C'est comme une blague, en fait. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire, mais voilà, c'est une morale, normalement. Non, mais avant, il y a une BD qui m'a fait beaucoup rire aussi, dont je vais vous parler, qui s'appelle Le Président du Monde.
Voilà. Alors,
je sais qu'Héloïse l'a vu aussi, donc elle osera intervenir.
C'est toi ou c'est ton téléphone qui en parle?
C'est moi qui en parle, mais
d'accord, je
texte toi en même temps, parce que je m'ennuie avec vous.
Ouais, tu as bien raison. Ouh, il fait peur.
Oui, il y a un monstre, sinon... Mais en même temps, quand on entend parler du Président du Monde, est-ce qu'on se dit que le méchant, ça va être le monstre? Ou est-ce que c'est le Président?
Ah, un nouveau genre de monstre.
Bonne question.
Eh bien, le Président du Monde, c'est un homme très occupé. Il est quand même Président du Monde, chers amis. Son téléphone sonne sans arrêt. Entre ses dossiers prioritaires, urgents ou confidentiels, il ne sait plus où donner de la tête. Sans parler de tous ses conseillers lèche-bottes qui rêvent tous d'une promotion et qui passent ses journées à l'harceler sans vergogne. La presse aussi, qui, on ne sait pas pourquoi, fait que poser des questions indiscrètes.
Aïe, aïe, aïe.
Bref. Mais un jour...
A-t-il un attaché parlementaire?
Absolument. Payé... Ah non, c'est pas la même, non, c'est pas le même
pas
monstre.
Même d'accord.
Donc,
toi, tu vas avoir des problèmes.
Non,
toi.
Il n'est pas encore président.
Je ne suis rien. Pas encore. Donc, un jour, panique. Un monstre s'évade d'un lac. Mais pas de n'importe quel lac. C'est là où sont jetés tous les dossiers embarrassants que gère le président du monde.
Ah.
Donc, problème.
C'est un genre de dinosaure, c'est un peu Godzilla.
C'est un Godzilla sympa quand même.
Ouais, ah, il est sympa.
Mais bon, il a quand même vu tous les dossiers compromettants.
Il parle ou pas?
Gênant du monde, je ne sais pas. Non.
Non, je ne parle pas.
En tout cas, j'adore les dessins.
Il borbore.
Excellent.
Et c'est en fait, là, le président du monde doit absolument prendre des décisions. Que faire? Halte là. Arrive un personnage très important dans la BD, sa mère.
Sa du mère, monstre ou du président?
Non, la mère du président.
D'accord.
Qui l'appelle régulièrement et qui lui conseille, qui lui interdit même de ne rien faire et de vite venir manger son gigot avant qu'il soit froid.
Ah, elle a raison.
Voilà. Mais le monstre n'a pas dit son dernier mot. Ouais. Voilà, donc c'est dans cet univers-là. Donc on a ce président qui est une caricature de tous nos élites de tout en haut. La caricature aussi de tous les petits lèches futurs. Oh là là, je vais me positionner, je serai un jour ministre. Voilà, et bah, la presse qui n'en loupe pas une. Et le petit côté humain de ce président qui a une espèce de sas de décompression chez sa maman. Et le stéréotype type de la maman qui, non, tu viens manger et après tu feras l'alimentation qui est hyper importante envers ses enfants, aussi président du monde soit-il. On imagine très bien la maman mettre une fessée au président s'il prenait une mauvaise décision. Voilà, donc c'est une petite fable politico-rigolote. Moi, je dirais pour adultes.
Mais oui, voilà. Parce que, ouais.
Parce que, ouais, pour enfants...
Voici la dernière page.
Ouais, c'est génial, hein.
Ouais.
C'est génial.
Excellent.
Voilà.
Ah, vous
après,
pouvez pas voir, chers auditeurs, hein, vous avez les boules.
Il me semble que ça correspondrait aussi pour enfants, parce que tu sais, il y a ce côté aussi un peu naïf, naïf quand on joue. Moi, je suis le président du monde, et moi, machin, et c'est... C'est vrai que ça peut aussi apporter une certaine réflexion, mais minime.
Oui, sûr, même s'ils ne comprennent pas, c'est pas forcément grave. Ouais. Oui.
Même ces personnages très caricaturaux, déconseillés, etc., forcément, ça va les faire rire parce que tout le monde se rend compte, adultes ou enfants, qu'ils sont ridicules.
Bah, ils sont poète-poète, en fait, c'est ça.
Et c'est vrai que je pense que même pour. C'est vrai qu'un adulte aura une vision différente et sera plus. Plus en accord avec ce que dit le livre, forcément. Mais ça fera rire aussi et ça pourra enclencher aussi une réflexion chez certains enfants, je pense.
Ah oui, ils peuvent le lire largement aussi. Et puis, c'est l'histoire. Eux, pour eux, que tu sois président du monde, c'est le même niveau qu'être maire d'une petite bourgade.
Oui.
Hein. C'est un dirigeant. Donc puis, c'est rigolo. Puis, il y a ce monstre, il a une bonne bouille.
Il est chouette, enfin,
voilà. Après, c'est sûr que le gamin, le monstre qui sort du lac où il y avait les dossiers gênants, compromettants, il va... Ce passage-là, c'est pas forcément ce qui va. Voilà.
Non, il va comprendre. Voilà.
Et c'est gênant, très gênant, trop sensible, super embêtant, trop pénible, perturbant. Et je vois pas celui qui oublie, je me rappelle.
Comment on peut qualifier le dessin, Héloïse? C'est pas pop, c'est...
Bah, les couleurs sont un peu pop, effectivement. Il y a des références pop aussi, parce que Godzilla, etc. Et ouais. Même la cuisine de la maman, la joie, ça fait très années 60.
Ces figures, c'est pas... C'est un peu du Magritte, non? On pourrait dire ça?
Je sais pas.
Rapidement.
C'est des grands aplats de couleurs. C'est un dessin un peu naïf, peut-être. Mais c'est vrai que c'est très sympa et c'est très vivant, en fait.
Pauline va nous le dire, là.
Eh ben non, non.
Rien me vient. Chers auditeurs, il faut vous faire une idée sur place. Il faut
Excellent. En tout cas, ça a l'air très, très bien. La joie de lire.
Ah, la joie de lire, c'est une petite maison d'édition suisse.
Ah, un seul Nico. Ouais, d'accord. OK. Albertine et Germano Zulo.
Il faudrait l'envoyer à Donald Trump.
Je pense qu'il ne lit pas, cet homme.
Il y a des dessins.
Il pourra regarder les images. Ouais.
C'est ça. Mais après, il va se prendre pour le Godzilla du livre.
Ouais, il va peut-être pas comprendre la finalité.
Il va dire comment ça, je ne suis que président des États-Unis alors qu'il existe un président du monde.
Ouais, c'est ça, exactement.
Qui occupe cette fonction que je le déchoue.
Les choix. Les choix.
Donc, oui, non, mais c'est très sympa et ça change.
Pardon, Émile.
Je lui enlève son poste.
D'accord, très bien.
Qu'il soit déchu de son poste.
Non, mais que je le.
Déchoie. Oh là là. Ça ne doit pas se conjuguer à ce temps-là.
Mais non, ça se conjugue.
Que je le déchusse.
En même temps que mes chaussures.
C'est pas mieux.
Allez, ok, on va se renseigner, chers auditeurs, si vous savez le. Si vous savez la conjugaison de ce verbe, je vous offre une place pour Bérangère Krief samedi prochain au Théâtre de Mende. Vous pouvez nous envoyer un mail redac@48fm.org ou nous faire un petit post sur la page Facebook. Donc, le verbe déchoir.
Déchoir.
À quel temps?
Au présent, l'impératif.
Alors, la personne qui me trouve le temps gagne également une place pour
Bérangère Krief. C'est à la première personne du singulier au présent. De l'indicatif.
Pas de l'indicatif.
Non, c'est trop compliqué.
Bon, on va
Bérangère Krief qui est un monstre de scène.
Qui est un monstre de scène, c'est ça. Voilà, que je le, et on attend ce verbe.
Donald Trump qui dit dites-moi qui est ce président du monde, que je le.
Voilà.
Verbe.
Verbe.
Déchoir.
Ouais. Allez, on va gagner des places là dans cette émission. C'est bien, vous avez raison de nous écouter. Et si vous ne savez pas le conjuguer, mais que votre proposition est assez drôle, vous gagnerez une place également. Tiens. Héloïse. Oui. Eh bien oui, nous on est professionnels, on n'y arrive pas, alors on ne va pas demander non plus. Hein.
Alors, je vais vous présenter un petit livre qui s'appelle Le chat puberon rouge. Donc de Charles Perrault, d'Alain Serre, de Clotilde Perrin et de tout un collectif d'auteurs de la maison d'édition Rue du Monde. Donc, je vais vous lire moi aussi le début du livre qu'on comprenne un petit peu tout le but commercial de ce livre. Pourquoi donc la publicité n'interromprait-elle pas... je recommence.
Très bien, mais c'est bon, on n'est pas en direct, je vais couper.
Un jingle.
Pardon. Pourquoi donc
la publicité...
Mais c'est dur à dire, hein. Pourquoi donc la publicité n'interromprait-elle que les films à la télé? Pourquoi ne se glisserait-elle pas...
C'est pas beau,
je demande à mon joker conteuse Valérie de lire.
Mais pourquoi donc la publicité n'interromprait-elle que les films à la télé? Pourquoi ne se glisserait-elle qu'entre les dessins animés, les pages des journaux, les émissions de radio, sur Internet, sur les t-shirts, sur les bus, sur les panneaux de toutes les villes, et jamais dans les livres?
Et oui, pourquoi donc?
Pourquoi donc?
Qu'est-ce que tu lis bien?
Ouais, c'est incroyable. Ah.
Samedi 3 mars, Bérangère Krief, vous pouvez oublier, parce qu'à 18h30,
à Aumont-Aubrac,
à la salle Terre de Peyre, il y a le méga conte de Valérie.
L'apéro-conte. Soyons précis.
Oui, tu as raison.
Suivi de la soirée de clôture du festival Contes et Rencontres qui se déroule en ce moment, il y a plein de trucs super.
Oui.
Voilà, donc Héloïse, on te laisse reprendre le petit
Je vais vous lire la suite de l'introduction. Donc, bien sûr, c'est assez dérangeant pour le lecteur, voire même énervant, mais cela peut faire gagner beaucoup d'argent à l'éditeur. Et puis, on est toujours libre de fermer les yeux au moment de la pub, non? Alors, au diable, les protestations des ronchons, voici une grande première, l'album publicitaire. Alors, voilà, donc vous l'avez compris, ce petit livre va alterner donc le texte classique du petit chaperon rouge et des publicités en accord avec l'histoire du Chaperon Rouge. Donc par exemple, au moment où la maman du petit Chaperon Rouge confectionne des galettes, on va voir une petite pub, une grande pub, même pleine page, pour la bonne galette de chez nous. Exiger le label de qualité, prix décerné par les amis de chez nous, biscuits durs et mous. Ensuite, quand le petit Chaperon Rouge rencontre par hasard dans la forêt le loup, et ben on a une pub pour une assurance vie. Vivre, c'est dangereux. Avec les assurances Bûcheron et compagnie, vivez heureux et sans souci. Votre cotisation vous est intégralement remboursée la deuxième fois que vous vous faites assassiner.
J'ai adoré ton regard.
Et ainsi de suite, on va retrouver des publicités pour le parc d'attractions de la Chevillette, la tisane vieille femme, le yaourt Chéra, Mordicus, le dentier qui ne l'a jamais prise, etc., etc.
Et est-ce qu'on découvre enfin où est confectionnée la tenue du petit Chaperon Rouge ?
Oui, également, il y a une pub pour les vêtements pour enfants. Parfait. Qui est sur la première page. Chape et rond, vêtements pour les 5 à 65 ans.
Super.
La mode des enfants sages. Ainsi, vous l'avez compris, c'est un livre très drôle qui offre une critique, mais tout en subtilité, en humour et en dérision de la société de consommation. Ça permet aux enfants, encore une fois, de réfléchir un petit peu au concept de consommation, de publicité, à tout ce qu'on leur impose à longueur de journée, en fin de compte. Même si, encore une fois, voilà, ça va beaucoup les faire rire et ils vont peut-être pas se dire tout de suite en regardant ce livre, oh là là, on est assailli de publicité, etc. Mais ça peut enclencher une réflexion. Et c'est une critique tout à fait ténue, mais vraiment, vraiment intéressante. Il y a plusieurs méchants dans le livre, vous l'aurez compris. Il y a le loup classique et il y a aussi tout ce qui est
l'agent publicitaire.
Le capitalisme.
Okay. En tapant sur la table, c'était important.
Et donc Rue du Monde, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui est très engagée. Et je pense qu'elle a encore une fois frappé très fort en abordant un sujet qui est plutôt compliqué à aborder avec les petits. Mais ils l'ont fait de manière intelligente. Ils n'ont pas pris les enfants pour des billes. Et c'est-à-dire que les enfants, eux aussi, se posent des questions. Eux aussi, ils réfléchissent à plein de choses. Et ce sont des êtres intelligents. Voilà, il faut leur donner des choses à leur portée aussi.
Très bien.
Voilà. Ah ouais.
Quel âge, Héloïse ?
Alors, je dirais à partir de 5-6 ans.
Ok. Mmh. Bah, c'est bien.
Mmh. Voilà.
Super. Popo.
Ok.
Jingle popo.
J'aime bien.
Bah, écoute, c'est,
on j'entends le refait
bien. Allez, on refait. Popo.
Alors, moi, je vais peut-être être un peu hors sujet. En fait, je vais vous parler d'un bouquin qui s'appelle Tsunami, c'est de Michaël Olivier. Et je me suis demandé, voilà, est-ce qu'on est bien dans le thème ? Parce qu'il n'y a pas vraiment de gros méchants classiques à proprement parler dans mon livre, dans mon bouquin. Finalement,
c'était pourtant le thème d'aujourd'hui.
Et ouais, on peut trouver un méchant, mais c'est peut-être le nouveau méchant du 21e siècle, à savoir la société. Et la société vue à travers la télévision. Donc au début, on est dans un... Voilà, on suit un petit garçon, on le voit tous les matins pendant qu'il prend son petit déjeuner, il boit son bol de lait de chocolat chaud, et puis il trouve la peau là qui repose sur le chocolat chaud, ça le dégoûte, il dit à ses parents « mais je veux pas manger cette peau ». Et tous les matins, ses parents lui disent « mais arrête de chipoter, le calcium c'est bon pour les enfants, bref, voilà, tu nous casses les pieds ». Et tout ça se passe devant la télé, devant les informations. Et du coup, il voit toutes les horreurs de la télévision qui tombent dans son bol. Alors, l'avion qui s'écrase, le CAC 40 qui flanche, les kamikazes, le chômage. Et puis, il y a sa sœur qui est née un 11 septembre et qui se rappelle son anniversaire de cette année-là, où elle était toute seule dans le salon à ouvrir ses cadeaux, alors qu'en même temps, il y avait des gens qui sautaient à la fenêtre d'immeuble. Enfin, voilà, il a toute cette horreur du monde, un peu, ce petit garçon qui lui tombe dessus. Il ouvre les yeux sur tout ça et petit à petit, ça commence à être lourd, 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 très lourd. Il irait bien se réfugier dans le ventre de sa maman, voilà, il a un petit frère ou une petite sœur qui vient de naître, et puis il envie un peu son innocence, tout ça, voilà, le confort qu'il a dans les bras de sa maman. Il est au chaud, il sait pas ce qui se passe, il ne voit pas. Enfin voilà, il a une vision du monde assez dure. Et donc, voilà, on voit plusieurs petits déjeuners, puis à un moment, ça s'arrête et on est à l'école. La maîtresse l'a gardé pendant la récré. Je vais vous raconter la fin, j'ai le droit de raconter la fin. Mais parce que c'est vraiment étonnant et je sais pas vraiment quoi en penser. Bref, il est à l'école, la maîtresse l'a gardé pendant la récré et lui dit, écoute, tes parents m'ont dit que tu voulais plus venir à l'école, tu veux plus t'habiller le matin, t'es malheureux et puis en plus t'as jeté la télévision par la fenêtre, par le balcon. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression que t'as plus envie de grandir. Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, on l'entend lui se parler à lui-même et lui se dire, est-ce que je dois lui dire à la maîtresse? Où est-ce que je lui cache? Enfin, il se fait toute une conversation, il se pose la question de est-ce qu'il doit avouer la vérité à la maîtresse? Et là se termine le livre sur la vérité, c'est que c'est bientôt la fin du monde. Et point. Et alors là, moi, qui ai 30 ans, qui suis pas un enfant, je suis restée complètement choquée. C'est ultra pessimiste. Il n'y a pas une lueur d'espoir. Et du coup, je sais pas, en fait. Je sais pas si on peut se permettre de lire ça à un enfant. Alors, je pense que si on décide, malgré tout, de lui dire, ouais, il faut absolument, je pense, en parler derrière, parce que franchement, c'est un coup. Après, l'enfant, il reste assis dans sa chaise, il bouge plus, et puis il est traumatisé. Donc, voilà, je me suis beaucoup posé la question de l'intention de l'auteur qui, en plus, écrit apparemment beaucoup de ce style de livre et qui ont pas ce côté sans espoir, entre guillemets. C'est en plus une collection, c'est les petites poches où c'est, voilà, des livres à partir de 7 ans quand même, donc qui est annoncé sur le site à partir de 7 ans et qui sont en général des textes de très bonne qualité pour passer ce genre de message ou non, d'ailleurs pas forcément apparemment. Et là, pour le coup, je suis un peu perdue, je sais pas où était vraiment l'attention de l'auteur.
C'est vrai que c'est une collection très engagée où il y a des textes très forts, et donc ça m'étonne pas que ce texte se retrouve dans cette collection. Et c'est vrai que là, forcément, c'est un texte à travailler soit en classe, soit avec ses parents, soit il faut en parler. C'est pour déclencher quelque chose, c'est-à-dire ce petit garçon qui est toujours devant la télé et qui finit par croire en fait tout ce qu'on lui dit.
Et voilà, qui perd toute son innocence, qui perd tout.
Il perd tout raisonnement aussi, voilà. Là, il a dû entendre à la télé que c'était la fin du monde, il a pris ça pour argent comptant.
Tout est brut, tout lui arrive comme ça dans la figure, et puis là, Et ses parents, ils lui disent « mange, bois du calcium », voilà, et puis ça s'arrête là. Hein.
Ouais. Mais c'est une fin assez dure, mais en même temps, ça permet de... Enfin, c'est choquant,
ça fait un choc. Vraiment,
les conséquences de toutes les images sur les enfants.
Oui, de ce que ça peut...
Nous, on arrive à les filtrer avec nos yeux d'adultes.
Oui.
Les enfants, il le prend comme une réalité.
Oui, il reçoit, on le met devant la télé ou devant, il reçoit tout ça comme ça, sans traitement,
sans filtre et sans empathie, a priori.
Effectivement, on peut se poser la question, qui est méchant? Est-ce que c'est les parents qui ne mettent pas de filtre? Est-ce que c'est les journalistes? Est-ce que c'est la télé? On ne sait pas. Mm. Et je pense qu'il y a plusieurs fautifs dans l'histoire.
Ah oui, oui.
Donc il y avait un vrai méchant dans ton...
Oui, un nouveau méchant.
Même le pire.
Oui.
Et oui, faites attention à ne pas mettre trop vos enfants devant la télévision. D'ailleurs, je salue la municipalité mandoise qui, pour ses rythmes scolaires, propose des activités de télévision à nos enfants. au passage. Très bien, rappelle-nous cette maison d'édition.
Tsunami de Michael Olivier, là, c'est Petite Poche et c'est Petit Rumanier, ouais.
Ok, c'est un tout petit livre. Hein.
Oui, en fait, c'est des premières lectures. En fait, c'est des tout petits livres d'une quarantaine, 40-50 pages, écrits très gros. C'est vraiment des petites lectures rapides et courtes, soit pour les petits, soit pour des plus grands qui veulent lire des choses rapidement. En fait, c'est très sympa le format.
Des textes intelligents qui questionnent divers sujets dont on n'a pas l'habitude de parler forcément avec les enfants. Donc, c'est bien aussi de bouleverser un peu tout ça.
Quels sont les autres thèmes qui développent cette maison d'édition, par exemple?
Les thèmes du genre, par exemple. Effectivement, oui, beaucoup sur les médias, l'actualité, sur les réfugiés, sur plein de sujets sensibles.
On avait lu un livre sur les réfugiés, justement, sur l'explication dans cette émission. Mmh. C'était eux aussi ou tu t'en rappelles
non,
pas
c'était non, pas eux, c'était ça, pas... c'était un collectif.
C'était un collectif.
C'était très bien aussi. Eux, c'est nous, c'était.
Mmh. Ok. Merci, Popo. Il te reste un livre à présenter, je vois ça.
Non.
Non, tu vois pas.
Et toi, il t'en reste un, lui?
Moi, il m'en reste un, oui, absolument.
Ben alors.
D'entre les ogres de Baume, de Dieu au Seuil Jeunesse.
J'ai pas compris le titre.
D'entre les...
D'entre ?
D'entre les Eurogrins.
D'apostrophe E-N-T-R-E.
Voilà. Comme d'entre les morts ou les murs ou les ogres.
Là, okay. C'est les ogres. D'entre les ogres, par exemple.
Voilà. Alors, j'ai décidé de commencer mes chroniques par la première page des livres. Hein, comme tout à l'heure.
Ça marche plutôt bien.
Ça marche plutôt bien, je trouve aussi.
Surtout ouais. Si t'as pas lu les pages d'après.
Exactement. Alors, c'est un panier qui pleure, seul au milieu de la forêt, une main sans saisie, c'est une main d'ogre. Alors, voilà l'histoire de Blanche, une petite fille abandonnée, trouvée par une famille d'ogres, une famille qui ne veut pas la manger, mais l'adopter. Hein, ce qui n'est pas commun. La couverture de cet album, en fait, annonce la couleur. Donc, tu me diras si je me trompe, c'est du pastel, mais du pastel assez sombre.
On dirait du pastel.
Ouais, on dirait du pastel.
Du pastel sec.
Voilà, donc une couverture verdâtre, cireuse, blafarde. Blanche est sur la pochette dessinée donc au pastel. Alors, elle n'est pas blanche, mais plutôt grise. Elle regarde un seul œil glauque qui est cerné sur l'horizon. Elle est derrière une pâtisserie qui est un peu repoussante. Elle a les cheveux gras, elle a l'air méchante. C'est une image qui provoque quand même, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, un certain malaise. En même temps, qu'un peu d'humanité. On voit cette petite
elle
fille.
Elle lève le petit doigt
elle lève
de son
le petit
couteau.
Doigt de son couteau. Elle a l'œil, elle a un regard un peu méchant, mais un peu humaniste aussi.
Un peu perdu aussi.
Un peu perdu.
Enfin, moi, j'aurais peur qu'elle me plante son petit couteau, qui ne doit pas faire mal d'ailleurs.
Oui, mais
malgré le petit doigt, elle n'a pas l'air très très sympa quand même.
Ouais, bah, entre toi et un gâteau, elle va plutôt le planter dans le gâteau, ma chère
Anne. Sûr.
Oui, je pense.
Elle est élevée par des ogres.
Oui, mais ça ne change rien. Alors en fait, voilà, ce malaise, cette humanité un peu, c'est le principe d'ambiguïté qu'on va retrouver dans tout le livre. Il nous montre finalement tout le contraste entre une beauté intérieure et un extérieur franchement moche. Donc des ogres, hein, souvent, ou de cette petite fille, les dessins sont... c'est des beaux dessins, mais qui font apparaître les personnages assez... d'une manière assez laide. Il y a beaucoup de traits de crayon, c'est assez gris, c'est assez sombre, c'est assez froid. Et ces personnages sont réellement attachants, plein d'humanité. Voilà, c'est ça. On fait apparaître le meilleur des êtres sous une épaisse couche de laideur. Cette famille, c'est une famille d'ogres, donc c'est une famille qui est assez violente, qui est un peu maudite. Et finalement, on se rend compte que c'est la réverbération de ce qu'elle subit en tant qu'ogre par rapport aux humains qui essayent justement de chasser l'ogre. Et c'est tout ce livre, c'est cette ambiguïté, chaque page entre la beauté intérieure, le mal-être extérieur, la beauté, la laideur. Et le texte vient bien aussi sur ce livre parce qu'il est un peu à fleur de peau. C'est un peu un texte qui agit comme un révélateur tout le long où on découvre cette histoire qui est fondatrice finalement, celle d'un enfant qui se bat pour changer le regard des autres et redistribuer l'amour qu'elle a reçu de ses ogres. C'est une histoire vraiment poignante, bouleversante, dont je vous raconterai pas la fin, où vers la fin, les ogres décident de la ramener au village des humains parce qu'ils se rendent compte que elle est pas comme eux, elle se pose des questions, elle se dit pourquoi je peux pas manger comme vous, pourquoi je vous ressemble pas vraiment. Donc il décide de c'est un peu le livre de la jungle, voilà, il la ramène chez leur semblable. Et donc bon, bien sûr, je vous raconte pas la fin, il se passe quelque chose de bouleversant que vous lirez en prenant ce livre.
Oui, ça a l'air étonnant, et finalement les méchants c'est les autres, c'est les autres humains, c'est pas les ogres là.
Ils ont une bonne bouille.
Je ne dis rien.
Ils ont une bonne bouille, les ogres.
Quand même. Ouais, ils ont une bonne bouille.
Ils ont
un
trait noir, mais ils ont un regard. Waouh.
Voilà, c'est ce que je te dis. Tu sens les deux. Tu sens le côté sombre, la saleté. Et d'un côté, il y a beaucoup d'humanité. Ouais. Et il y a beaucoup d'humanité également dans l'histoire, dans la morale qu'apporte ce livre. Au début, j'ai eu du mal. Je l'ai lu une première fois à mon fils. On s'est dit voilà, il m'a dit c'est fini, moi j'aime pas trop. Moi j'aimais pas trop non plus, j'avais pas perçu encore tout ce second degré, tout ce qu'avait voulu faire transparaître ces auteurs, qui est vraiment intéressant. Ouais.
Et à la deuxième lecture, tu as plus apprécié.
Oui, voilà. Se pencher un peu plus sur ce que reflète l'histoire, sur ce que veut dire l'auteur, et on se rend compte qu'il y a plusieurs degrés de lecture, et c'est une très belle histoire.
Ouais. Et pour quel âge tu dirais, du coup ?
Oh, ça va de 3 à 8 ans, je dirais. Ouais. Okay. Bien qu'à 3 ans, c'est peut-être un peu petit, qu'on ne prenne pas vraiment. Bon, on passe un bon moment, mais on ne voit pas un peu tout ce second degré qu'il y a dans ce livre. Oui. Chez Seuil.
Très bien.
Seuil Jeunesse. Voilà. Qu'y a-t-il, Valérie ?
Ah, mais absolument rien.
D'accord, très bien.
Je me disais que j'adore les histoires d'ogres. J'aimerais que quelqu'un me raconte une histoire d'ogre.
Ah, Mais écoute, on va lancer un appel. Hein. Mm-hmm. Si quelqu'un veut raconter une histoire d'ogre à Valérie.
Mais écoute, j'en ai une sous le coude.
Génial.
C'est génial, ça.
Génial, j'adore ça. Je suis tout ouïe.
Alors, c'est une histoire. Il faut s'imaginer qu'on est ici tous des enfants ogres.
C'est pas trop
et
dur.
C'est une histoire pour nous effrayer, nous, en fait, les ogres. Pas pour effrayer les enfants. Voilà, ça s'appelle « Petite histoire pour effrayer les ogres » de Pierrette Dubé et Guillaume Perrault, aux éditions Les 400 coups.
On avait déjà un Perrault tout à l'heure.
Oui, c'était Charles. Charles Perrault.
C'est pas la même orthographe, non ?
C'est pas pareil, ouais. Alors, donc vous allez me dire, pour effrayer les ogres, mais qu'est-ce qui effraie les ogres ? Enfin, ils n'ont peur de rien, ils sont forts, ils sont grands, ils sont assoiffés de sang, ils sont cruels, sans pitié, ils sont sales en plus.
Les apérocontes, ça les fait flipper.
Ouais, grave. La propreté.
Ils n'ont pas peur de l'apéro, hein. Ah. Donc oui, donc... vous n'avez pas tort, parce que c'est... Qu'est-ce qui peut... Vraiment, on peut se poser la question, qu'est-ce qui peut les effrayer ? Qu'est-ce qui peut leur faire peur ?
L'école, la propreté.
Et donc, on va suivre, en fait, pour cela, l'école et la propreté.
Ouais, je dirais, ouais. Mais peut-être ça, c'est à cause de Shrek, ça. C'est...
Ah oui, ouais. Fameux ogre. donc, en fait, ici, on va suivre un couple d'ogres. Je vais vous lire le début, comme c'est la tradition de cette émission. Un ogre et une ogresse vivaient heureux et mangeaient beaucoup d'enfants. C'était un couple qui se complétait merveilleusement. L'ogre chassait les enfants et sa femme, qui était une fine cuisinière, les apprêtait de mille et une manières. C'est délicieux, mon ogrillonnette adorée. Merci, mon chéri, le secret, c'est le persil. Voilà. Donc, c'est une petite BD album pour enfants qui raconte cette histoire en fait, de ce couple qui est très heureux, ce couple d'ogres, jusqu'au jour où il y a évidemment quelque chose qui va déclencher leurs peurs les plus profondes et qui va semer la zizanie dans leur couple. C'est un jour, l'ogresse achète un sac à main en crocodile. Et à partir de ce jour-là, il va se passer des choses très étonnantes et très effrayantes dans la maison. Je ne vais pas vous en dire plus, mais...
Oh, un petit peu.
Ah oui, t'éveilles notre curiosité, là. Oui,
et bien, en fait, le sac à main est vivant.
Waouh. Ils ont peur des crocodiles, les ogres.
Et bien, en fait, ils se font manger par les crocodiles.
Oh, mercredi. Ouais.
Parce qu'un crocodile est encore plus affamé qu'un ogre, a priori. Voilà, donc c'est vraiment drôle. Les ogres sont un peu tournés en ridicule, ce qui fait du bien aussi. Un méchant tourné en ridicule, c'est aussi un classique, c'est toujours... toujours assez jouissif, en fait, de voir que les plus grands, les plus méchants, ils peuvent aussi avoir peur, ils peuvent aussi être en position de faiblesse. Voilà, donc c'est sur ce registre-là. Et c'est très drôle. Les dessins sont aussi assez sombres, assez gris. Et ça rajoute à tout cet univers un peu étonnant de la vie des ogres. C'est un peu glauque, quand même. Voilà. mais voilà, encore une fois, c'est rigolo.
Ben ouais, ça a l'air.
Et ça fait pas peur aux petits enfants, ça fait juste peur aux petits ogres.
Ouais, excellent, merci Héloïse. Ouais. Allez, on finit en beauté.
Ouais.
Oui, c'est
ouais,
toi.
Super.
Je parle de toi.
Tu parles de beauté, je me doutais que c'était moi, mais oui. Je savais pas que c'était mon livre. Comme tu parlais de méchants qu'on tourne en dérision, moi j'ai dans les mains le dictionnaire des sorcières. Et là, c'est, vous voulez tout savoir sur les sorcières sans lire une encyclopédie trop compliquée ou réaliser votre mémoire de fin d'année sur la vie des sorcières de 1512 à 1513. Ce petit dictionnaire, alors il est super sympa. Alors moi, je l'ai fait lire à ma fille qui me dit oh, « c'est pas un dictionnaire, c'est pas classé par ordre alphabétique ».
Voilà, bon, terre à terre, comme tu l'as dit.
Voilà, c'est ça. Outre ce petit côté... terrible. En fait, il y a plein de petits mots qui rappellent les sorcières. Le premier, c'est abracadabra. Une définition d'abracadabra. Après, on a par exemple le mot oulala. C'est lorsqu'il y a du vent que l'on voit qu'une fée est bien différente d'une sorcière. Sous leur manteau couvert de pierres précieuses, les robes ou les jupons des fées sont toujours propres et de couleur claire, alors que ceux des sorcières, oulala. Voilà. Et c'est plein de petites définitions comme ça, rigolotes, avec, je sais pas, par exemple, dites stop.
Stop.
Ok, mauvais œil. Il y a une différence entre le mauvais œil et l'œil mauvais. Le mauvais œil, autrement dit, les ennuis à répétition, est une croyance ridicule et n'existe pas. Alors que l'œil mauvais ou œil de sorcière est assez courant. Il suffit de prendre le métro à Paris pour s'en rendre compte.
Excellent.
Voilà, il y a énormément de petites définitions avec un petit dessin à côté, page de gauche, la définition, page de droite, le petit dessin. Et des,
il y en a beaucoup en plus.
Oui, il y en a énormément. Il y a, enfin, je sais pas, il y a 200 pages à peu près, donc ça fait une centaine de définitions. Et c'est très rigolo. Et en fait, ça se lit pas un suivant, ça se lit pif, j'ouvre, définition, fiente. Ben, la fiente, il arrive que les sorcières reçoivent leurs amis pour le thé. Et elles leur servent à cette occasion des gâteaux à la fiente d'oiseau, pas très appétissants par ailleurs, pas très bons, mais très bons pour tester leur amitié. Voilà, et c'est assez hilarant. Alors, ce n'est pas un livre qu'on va lire le soir pour lire une petite histoire tranquille avant d'aller au lit, mais voilà, à laisser traîner et à ouvrir de temps en temps pour en savoir plus sur les sorcières et se moquer d'elles.
Et leur quotidien.
Voilà, exactement, c'est ça. Leurs chaussettes, leurs petits goûts. Enfin, voilà, c'est rigolo. C'est assez exhaustif et c'est chouette. Voilà.
Et c'est donc Grégoire Solotareff, qui est un grand auteur jeunesse, qui a fait beaucoup de choses, notamment sur les loups, qui a fait des dessins animés aussi. C'est un auteur très connu en jeunesse.
Et c'est donc à l'École des loisirs.
Ouais. Ok, merci Valérie. Bon, on a présenté pas mal de livres différents, c'est sympa.
Hein, on les mettra sur
Les réseaux
sur le
sociaux.
Facebook,
ouais. On va prendre
et
les
pour
photos
le verbe, n'hésitez pas.
Voilà.
Le verbe des choix. Tu as une réponse déjà?
J'ai une réponse.
Ah.
Mais c'est toi qui l'as cherché.
Hein, pardon?
C'est toi qui as cherché la réponse ou c'est un auditeur qui a trouvé la réponse?
Non, c'est... j'ai réfléchi, j'ai trouvé en
tu
fait.
Tu t'es rappelé?
Je me suis rappelé. Et oui, c'est des choix. Que je déchoie ou que je déchusse, si c'est de l'impératif.
Aurait-il fallu que je le déchusse?
Aurait-il fallu que je le déchusse?
C'est ça.
Exactement.
Je ne veux pas dire, mais je l'avais dit.
Oui, déchusse. Mais bon.
Et je crois que j'avais dit comme il faut au départ aussi.
Non, que je le déchoie, pas déchoie. Des choix, t'as dit. Des choix.
Des choix, c'est très breton, ça.
Ouais.
C'est
mon petit côté breton. On
Yuan.
Parle de Yuan.
Assoye. Voilà.
Bah allez, 13h29, 30 secondes. Il te reste 30 secondes pour ton histoire, Valérie.
C'est parti. Ah bah alors, une en 30 secondes. Donc, c'est le fils de Nasreddin qui se lève un matin. Il va voir son père et lui dit « Papa, papa, cette nuit, j'ai fait un super rêve. J'ai rêvé que tu me donnais 100 dinars. » Alors Nasreddin, il tape sur la tête de son fils, il lui dit « Mais tu es un très gentil garçon, tu peux les garder. » Voilà.
Excellent.
J'avais 30 secondes.
J'adore Nasreddin.
Génial. Dans deux semaines, ça va être chaud, attention.
Dans deux semaines, oulala, rougissez dans les chaumières. Nous allons parler de littérature érotique.
Voilà, donc l'émission
sous toutes ses formes.
Spécialement dans deux semaines sera interdite aux moins de 18 ans. Non
oui.
Ça avait l'air étonné.
Oui, ça avait l'air étonné.
Non,
là.
Non, comment ça on va pas non plus parler cru, on va pas...
Ouais. Ça se voit que t'as pas les livres que j'ai.
Moi aussi, j'ai des petits passages, éventuellement.
Ah. D'accord.
Je les ai pas commencés, moi. C'est bien ça. Et comment s'est passé ce roller, ce disco roller?
Génial.
Et comment ça s'est passé, ce parking du disco roller?
Eh ben écoute, super.
Voilà, on ne s'est pas vu la semaine dernière. Donc
non, pas du tout.
Allez, c'est parti, on se retrouve dans deux semaines, vous l'avez bien compris, c'est l'émission à pas louper.
Au revoir.
Ciao.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Sinon pas style, il m'intéresse pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, il y a plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire. Là.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est, personne ne le sait. Je sais quand il y en a, quand il n'y en a pas.